Du coup, j'arrivais même pas à... Enfin, j'arrivais pas à... Non, mais je suis lente, moi, c'est ça que vous comprenez pas. C'est que vous me dites, oui, là, t'as compris ci, t'as compris ça. Non, mais moi, je mets... voilà, j'ai compris les trucs. Ouh, 4 ans plus tard, j'ai recollé. J'ai dit, ah, mais c'est pour ça que... voilà. Mais
non, on va venir après. Rien, un temps de gestation, de maturation.
Ouais, là. Bah oui, oui. Non, mais c'est voir. Pour ça que je voulais que, absolument que je disais... Mais là, tu as
on
pensé...
On a besoin d'une histoire, oui, mais... d'un découpage.
Mais
de...
oui, mais voilà. Mais
d'un
moi,
élément perturbateur,
ouais,
en fait.
Mais, voilà, mais moi, je...
Ta vie ressemble pas assez à un scénario de film conventionnel. Je suis désolé.
La transition, elle arrive
après. Ah bah
ouais,
mais quoi, les climax, c'est... voilà, il y en a pas, quoi. C'est, ah ouais, d'accord, le rapprochement entre la séquence 1 et la séquence...
Ouais.
T'as vu ça? Il se passe la même chose dans le film.
Ah, t'inquiète, c'est de la merde, ce film.
J'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'important.
C'est quand t'as dit il est 9h, c'est ça? C'est ça qui est important? C'est vrai, remarque, 9h, c'est assez important comme horaire, parce que c'est l'horreur d'aller dormir.
Remarque, une fois, je me souviens, il était couché vers 10:30.
J'étais fatigué. J'y passerai des jours, des nuits, des mois s'il le faut. Oh non, tout de suite, bordel de merde. Oh, tu m'en tailles. Tu m'en fous. Oh, je suis fou. Oh, prostitue. Oh, ton cul, ton cul. C'est mon génie.
Bonjour et bienvenue, vous écoutez Le Cinéma est mort, l'émission Nécrophile de Canal B qui vous propose aujourd'hui une interview avec Bénédicte Pagnot, réalisatrice des Lendemains, qui sort le 17 avril à Rennes. Une interview réalisée en compagnie, bien entendu, du docteur Moreau et de Vincent Cadoret.
You will not be able to stay home, brother. Not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew. Eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nubs. The revolution will not make you look 5 pounds thinner because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Green Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Arm, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Keyes, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised.
Alors là, ce qu'on a entendu, le problème, c'est que je ne vais pas du tout pouvoir prononcer le titre. Je peux dire juste le début, The Revolution, et ça suffit, parce qu'après, c'est Will Be Knows The Jesus. Voilà, j'y arrive pas. Donc c'est Gilles Scott-Heron. Et c'est une chanson politique, et que j'aime beaucoup. Et c'est tout. Et t'as regardé quoi? Toi, t'as regardé les cours, t'as tout regardé, même les docs.
J'avais 50, ouais. Donc je l'ai pas revu. Mais j'ai tout vu.
Ah oui?
Trois courts-métrages de fiction, trois documentaires.
Ouais.
Un long-métrage dans deux versions différentes.
Est-ce que c'est une coïncidence? Trois courts-métrages de fiction, trois documentaires. C'est quand même incroyable.
Il y a un truc. C'était un choix. À la base.
Ok, donc voilà. Non, ça se met trop mal, justement. Le chiffre 3 est un... Non, c'est pas vrai. Non.
Ah, dommage. Enfin, peut-être que c'est un truc que je devrais demander après, mais un truc justement qu'on aurait raté, qui serait pas dans ta filmographie.
Non. Enfin, après, il y a des films que.
Mis à part peut-être sur lesquels t'as travaillé, dont t'es pas la réalisatrice, en fait.
Ouais. Non, puis avant, j'y avais des films quand j'étais étudiante. Mais voilà, ceux-là.
Films d'atelier.
On n'a pas le droit de les montrer. Ouais, que... Non, c'est. Il y a un chef-d'œuvre total qui s'appelle La Devinette qui est.
Ok.
Voilà.
C'est un film à chute.
Ah, c'est un film à chute.
Non, c'est un film à rien. C'est voilà. Enfin, pas à rien. Pas,
ah ouais.
Pas,
non, t'as un passé politique douteux.
C'est quand non, j'étais ça... de droite.
C'est le GUD avant Sud.
Le quoi?
Le GUD.
Ah oui, c'est ça. C'était ma... Non.
Est-ce que ça finit par un suicide?
Quoi?
Parce que ça finit souvent par des suicides, en fait, les premiers films.
Écoute, je me souviens, je sais même pas, je me souviens même pas comment ça finit, en fait.
Ah. Ça parlait de quoi?
Ça parlait de. Voilà, ça parlait d'une. Non, c'était nul, hein. Non,
et j'ai vas-y, aucune. Vas-y,
non,
allez, non, balance. Mais on ne mettra pas dans l'émission.
Ouais, c'est ça.
On va couper
non,
ça.
Non,
après.
C'est tout pourri. Non, voilà, donc c'est un film, j'étais étudiante, et donc j'ai fait des films quand j'étais étudiante, et puis ils sont pas bien, et je ne veux pas les montrer, voilà.
Non mais d'accord,
donc
mais
le premier officiel, c'est la petite cérémonie
mais,
en 2001.
Mais voilà. On demande pas à les voir, mais c'est intéressant aussi, de qu'est-ce que tu as pu rater justement, pourquoi tu les as ratés, et même toi, tu as dû te poser la question à un moment, j'ai fait ça, bon, j'apprenais tout le bordel, mais pourquoi c'est pas bien en fait?
C'est pas bien parce que d'abord en fait c'est un film que j'ai fait j'ai voulu le faire en pellicule, j'ai voulu trouver de l'argent pour le faire et donc enfin ça c'était plutôt intéressant mais
même courageux en tant qu'étudiant de chercher ça.
C'était un peu courageux, mais sauf que donc j'ai eu une bourse à la première œuvre de la Haute-Normandie d'où je suis originaire et voilà, sauf que comme j'étais dans une école d'audiovisuel à Toulouse qui s'appelle l'ESAV, qui est une école très très intéressante, mais c'est une école aussi qui voilà où toutes les questions de production tout ça c'est pas du tout abordé et c'est aussi une école où on est assez facilement, on devient assez facilement parano, c'est-à-dire tous les producteurs sont des méchants, tous les monteurs bousillent des films, enfin c'est un peu comme ça dans cette école, et c'est un peu le culte de justement tu fais ton film archi tout seul et là t'es un vrai auteur et c'est super, donc j'ai fait ça et ça veut dire aussi que j'ai fait la réalisation mais aussi toute la production qui avait pas beaucoup d'argent que je voilà c'est... Et donc, en fait, je passais mes journées à essayer de faire un film alors que je comprenais rien à la réalisation. Et puis après, j'étais avec tous mes petits tickets le soir pour essayer de calculer comment on pouvait faire pour essayer de manger moins de saucissons. Et voilà. Et c'était très formateur. Mais le film, il est. Mais c'est pas à cause de ça qu'il est mauvais. Il est mauvais parce que le scénario était con. et que c'était pas bien, quoi. C'est bien, tu peux déjà couper tout ça, c'est absolument inintéressant. Mais non, mais voilà.
C'est une très bonne introduction. Moi, j'avais demandé pour commencer l'émission déjà comment tu étais arrivé à choisir cette école.
Bah, moi, en fait, je voulais faire ça depuis déjà longtemps parce que j'ai un souvenir qui est peut-être un souvenir que je me suis inventé, mais voilà, j'ai un souvenir que quand j'avais, je sais pas, une dizaine d'années. J'aimais bien regarder des films. Alors mes parents n'étaient pas du tout. Voilà, on n'allait jamais au cinéma. On regardait que des VHS. Mes parents détestaient Hitchcock, détestaient les westerns, détestaient tous les trucs qu'il faut absolument aimer quand après on veut faire des études de cinéma. Mais le truc c'est que moi j'adorais inventer des histoires et dans mes souvenirs. J'ai demandé à mon père justement comment ça s'appelait les gens qui écrivent les histoires pour le cinéma. Il m'a dit ça s'appelle scénariste. Et donc moi j'ai dit ouais, super, je veux faire scénariste quand je serai grande. Voilà, ça c'est
mais, un... Oui, mais c'est pas juste de raconter des histoires du coup, parce que t'aurais pu juste écrire des histoires.
Bah, non, parce que j'aimais bien regarder des films, qu'en même temps je pense que je comprenais rien au cinéma, mais j'aimais pas spécialement lire des livres et du coup, j'avais envie d'écrire des histoires qui allaient devenir des films. Donc après je suis allée en section cinéma audiovisuel au lycée, parce que voilà, puis bah, avec toujours cette idée-là. Là, c'est là qu'on m'a dit justement, mais les scénaristes, on s'en fout, c'est les réalisateurs qui comptent. Alors déjà, ça, c'était un peu compliqué pour moi. Et puis voilà, après, on m'a dit, Hitchcock, c'est génial. J'ai dit, ah merde. les westerns, c'est indispensable. J'ai dit, oulala. Et voilà.
Parce qu'avant ça, ce qui te plaisait, c'était quoi?
C'était. Je sais pas, moi, mon premier. Moi, ce qui me plaisait, c'était Midnight Express. Voilà, ça, c'était bien. C'était un film à message. Tu pouvais mettre l'affiche dans ta chambre, c'était écrit « L'important est de ne jamais désespérer » en slogan. Et ça, voilà, ça c'était pour
moi. Un scénario de Livingstone, un truc qui t'abasse.
Voilà, et puis du coup, il y avait un mec qui mangeait la langue de l'autre et tout. Moi, j'aimais vraiment ça.
Est-ce que c'est le film qui a déclenché ta vocation?
Je me souviens pas. Non, mais Midnight Express, je l'ai vu je sais pas combien de fois. J'étais pas très vieille en plus. Je pense que c'était un peu tôt pour le regarder autant de fois que ça. Mon autre truc, c'était Carrie de Brian de Palma. J'adorais. C'était des histoires, des messages, des trucs où quand il y avait un peu de sang, c'était vachement bien aussi. C'était plutôt
l'histoire. Mais après, dans l'esprit, il y a
la musique aussi, Midnight Express, mais la musique en boucle.
Cardio Moroder.
C'était tout ça, mais moi je ne le sais même pas. J'ai retenu aucun nom à l'affiche. Moi, c'était juste l'important de ne jamais désespérer. C'était ça qui me plaisait. Après, les noms des mecs dessus, je sais même plus comment s'appelait. Le chef hop. Alors là, je ne savais même pas que ça existait, ce machin-là. C'était ça, quoi. Et puis...
Parce que t'es déjà dans l'adolescence, là, à ce moment-là. Quand tu regardes Midnight Express, t'as pas 6 ans.
Non, j'ai pas 6 ans, mais j'ai... J'ai 12-13, quoi. Oui,
c'est l'âge auquel on regarde Midnight Express.
Ouais. Non, mais comme je suis un peu en retard dans tout, moi, je pense que j'étais adolescente plus tard. Mais bon, ça, c'est un autre problème. Mais le truc, c'est que j'ai toujours eu envie de faire ça, j'ai toujours en fait un peu tout fait pour faire ça, mais en même temps, il n'y a jamais eu, sauf peut-être quand j'ai fait le premier court-métrage là, en 2001, sinon il n'y a jamais eu vraiment de moment où je me suis dit « Ah mais en fait, je vais vraiment faire ça ». Enfin, c'est pas si clair que ça, quoi. Mais c'est chiant là, ce que je raconte.
Mais non, pas du tout. Et non, parce que moi je vais continuer. Du coup, l'école, ça t'apprend des choses
C'est une école assez. Je pense que ça a changé maintenant, parce que c'était donc entre 90 et 94, donc c'était il y a longtemps. Mais c'était une école assez spéciale. Par exemple, il n'y avait jamais de notes, il n'y avait jamais d'examen. Chacun
c'est
faisait...
C'est la fête,
quoi. Non, mais en fait, c'était des anciens... De mais exactement, c'était une pure école de gauchistes. Et c'était des gens qui étaient avant à l'université de Vincennes qui ont créé ça. Et donc, ils étaient dans un truc très... très, très libertaire. Après, c'est une école... Moi, je pense pas que j'ai appris à faire des films là-bas. Ça a été un moment, 4 années super importantes pour moi dans ma formation plus intellectuelle qu'autre chose. Aussi parce que moi, du coup, j'avais 20 ans, que la moyenne d'âge dans ma promo, c'était 28 ans, qu'il y avait des gens qui avaient des enfants et des gens qui avaient fait, qui avaient vécu 10 ans en Inde et qui étaient revenus et qui disaient « Ouais, maintenant, je vais faire du cinéma. » Enfin, vraiment des parcours. Moi, je sortais de chez mes parents, j'étais complètement débile. Et je pense que je suis restée débile pendant 4 ans, mais en tout cas, ça a quand même vachement... Enfin, c'est sûr que ça m'a... Et puis politiquement aussi, c'est sûr.
J'allais y venir, voilà. Évidemment. Bien sûr. On parlera des lendemains après, mais bon...
Ouais. Après, c'est une école. Moi, je me souviens, le vendredi matin, on avait histoire du cinéma de 8 à 10, on avait soudure de 10 à 12 quand même. Parce que c'était un endroit où... justement, c'était pas du tout la Fémis, où je pense que t'as un problème de câble et t'as un câble qui arrive dans les 3 minutes, même si t'es à l'autre bout de Paris et tout. Ouais. Là, nous, c'était quand même une école où il y avait du matos, justement, il y avait même du matos de cinéma et tout ça, mais c'était quand même une école où il n'y avait pas beaucoup d'argent. Et du coup, on nous expliquait aussi qu'il fallait qu'on soit super autonome et tout ça. Donc, si on partait en tournage, il fallait qu'on sache réparer nos câbles nous-mêmes parce qu'il n'y aurait personne pour venir nous les... Et moi, je sais pas si ça se fait toujours, hein, c'était comme ça. Et moi, je trouvais ça super. Après, on avait aussi une carte qui nous donnait un accès à la cinémathèque, un accès gratuit à la cinémathèque de Toulouse, qui est quand même une super cinémathèque. Donc, on pouvait aller à la cinémathèque tous les soirs. Enfin, moi, j'y allais quand même beaucoup. Là, c'est vrai qu'il y a eu quand même des choses qui, j'ai eu quand même des chocs cinématographiques en allant à la cinémathèque. Mais
si Balance j'aime bien moi les histoires de chocs cinématographiques.
Non mais c'est vrai que moi j'ai vu l'argent de Bresson. Pour moi ça a été un truc monumental quoi. C'est-à-dire justement que avec quelque chose comme ça de complètement
maîtrisé.
Ouais non mais surtout quelque chose de si sec, si comme ça complètement. C'est ascétique, c'est ça le mot? Bien ascétique. Ouais. Et ben, qu'en même temps, il y a une telle violence qui arrive à moi le coup du la claque, du bol là, mais c'était, je crois que j'ai jamais sauté comme ça dans un autre moment dans mon fauteuil.
Solo momento ride contento.
Un chant baroque de Handel qui s'appelle Cella Bellazza, et c'est une alto qui s'appelle Sarah Minguardo qui chante. Et j'adore le chant baroque et j'adore Sarah Minguardo et je trouve ça magnifique. Mais le fait est que, du coup, après, j'ai eu une très, très grande période de chômage parce que j'ai voulu rester en Bretagne. Alors, tout le monde me disait, bah, maintenant, si tu veux continuer à bosser sur des tournages, il faut aller à Paris. Mmh. Et moi, j'avais pas envie d'aller à Paris. Et en fait, après, j'ai eu une très longue période où il n'y avait pas de tournage, où j'avais pas de boulot. Et finalement, je me suis mise à écrire un court-métrage, quoi.
Ah donc alors la naissance de l'idée de faire réalisatrice, ça vient du fait que si tu veux un travail, il faut le créer en fait.
Voilà, c'est ça.
Non mais Sylvester Stallone a fait la même chose. C'est génial, c'est parfait, merci. Stallone a fait exactement la même chose, il était acteur, il n'avait pas à faire l'acteur, et du coup il a écrit Rocky.
Ouais.
Donc tu dis ça pour nous faire plaisir, parce que comme ça c'est on ça. A vraiment un vrai point biographique central et tout ça, un vrai nœud.
Non mais c'est sûr, mais moi je me suis tout d'un un moment finalement j'ai eu envie de raconter ce qui est devenu mon premier court-métrage qui s'appelle donc La Petite Cérémonie. Mais c'est vrai que c'était bizarre parce que enfin quelque part j'ai pas pu m'empêcher de l'écrire, quoi. Donc c'est que finalement j'avais toujours envie de faire des films et que en fait je pouvais pas trop m'en empêcher. Mais
La Petite Cérémonie, donc ça raconte l'histoire d'une femme qui a deux enfants, un en bas âge, une petite fille, et puis le papa il est mort, et puis du coup faut qu'elle l'annonce à ses filles, et puis ensuite elle va partir du coup avec ses filles pour c'est une question de deuil qui est présente après aussi, quoi. Et voilà, tu te lances déjà dès le départ.
C'était aussi lié à parce que c'est aussi par rapport à des trucs qu'on vit, enfin,
bien sûr,
je pense.
Non, mais
donc, c'est vrai que moi, c'est aussi parce
que. C'est ce que je voulais dire, c'est que tu te lances dans quelque chose du coup qui te touche, quoi. C'est pas. Mais déjà, voilà, moi.
Mais je crois que là, on retrouve en fait le truc que je disais au début, c'est-à-dire quand justement la question c'était, mais pourquoi j'avais envie de faire des films alors que ce qui m'intéressait c'était les histoires. Là, je pense qu'il s'est passé un peu la même chose, c'est que tout d'un coup, là, j'avais ce truc, il fallait que j'en fasse quelque chose et que je pouvais pas en faire autre chose que finalement en faire un scénario, quoi. Tout en me disant, oulala, mais en fait, waouh, quand même, justement, l'expérience de la devinette, là, c'était un peu terrible. Et est-ce que j'ai vraiment envie de me recogner tout ce truc-là?
Et puis le film a bien marché, du coup.
Ouais, il a. C'est celui qui a le mieux marché.
Mais oui, en plus, il a reçu une dizaine de prix. Il a pas mal voyagé aussi.
Mais c'est sûr que c'était super encourageant. Moi, je me souviens de. Quand j'ai fini La Petite Cérémonie, on l'a présenté à l'Arvor en décembre. Donc,
c'est 2001.
Donc du coup, ça doit être décembre 2000, je pense. Et juste à ce moment-là, on a appris qu'il y avait un mec au Festival d'Angers qui avait complètement adoré le film et qui voulait absolument le prendre. Et finalement, donc un mois plus tard, moi, je me suis retrouvée au Festival Premier Plan à Angers. Et que Maurice Pialat sur scène, dont j'avais rien à foutre, parce que moi ça me parlait pas du tout.
La fameuse année, ouais.
Si, c'est des années plus tard, je me suis dit, mais merde, il y avait Maurice Pialat. Non, je suis terrible.
Ah, les regrets.
et puis j'ai eu le prix du public, donc là je comprenais vraiment, vraiment rien à ce qui m'arrivait. Ben ouais.
Oui, parce que les lendemains, du coup, a reçu le prix du public aussi.
Ouais, 11 ans plus tard, ouais. Bah ouais, ouais.
Tu l'as, ta belle histoire, ça y est.
Oui. C'est Rocky, putain, depuis le départ, c'est Rocky.
Les lendemains, il va faire 80% de ses entrées à Angers.
Il faut déjà qu'il le programme, ça c'est une autre question.
Ouais. C'est vrai que quand on est au milieu des pierres, de l'herbe, des arbres, plus facilement on arrive à voir quelle est notre véritable dimension. On est largement plus grand que les brins d'herbe et largement plus petit que les arbres, que les chênes. quelque part dans une civilisation où on a tendance à se laisser aller, à divaguer dans le dans l'ivresse de grandeur, voilà à peu près notre mesure, quoi. Enfin, pour moi, après chacun se trouve ses mesures.
Parce que tu disais là que tu avais une envie de documentaire après.
Oui, j'avais une envie de documentaire.
Par rapport à un sujet ou par rapport à la forme du documentaire?
Non, justement.
Tu sais comment tu vois
pas. Entre-temps, ça vient pas ça, trop.
Bah, ça vient de Comptoir du Doc. Ouais.
Ah, bah oui, on n'a pas parlé de tes différentes casquettes. C'est vrai que, donc, du coup, réalisatrice, mais entre-temps, tu participes à différentes associations ou des groupuscules de gauchistes, les choses du Kolkhoz, par exemple. Excuse-moi, c'est un groupuscule de gauchistes.
Et donc, les Comptoirs du Doc, tu étais fondatrice ou
Non.
Comment ça s'est passé, cette histoire-là, du coup?
Comptoir du Doc, ça s'est passé que. Donc ça devait être en 98, alors là déjà avant j'avais évoqué qu'en 97 j'avais des tas de doutes existentiels, mais en 98 c'était pire. Et puis c'est là, et 98 c'est aussi ma grande période militante, mouvement des chômeurs et tout ça, et qui est enfin je fais exprès d'en parler parce que c'est hyper important par rapport à la suite, par rapport au lendemain notamment. Et dans cette période-là, je rencontre quelqu'un qui me dit « Ouais, il y a un... Voilà, maintenant, il y a un endroit, là, à Rennes, où ils passent des docs dans un bar. » Et voilà, et donc, au Scaramouche. Et donc, puis c'était gratuit. Et quand j'avais pas du tout d'argent, c'était très bien. Et là, ouais, je vois, voilà, je vois l'enfant aveugle de Von der Koken. Waouh, d'accord, trop bien. Je vois Juillet de Didier Nyon. Je vois Clean Time de Didier Nyon. Des films produits par Gilles Padovani, Mille et une films. Et voilà, ça c'est Clean Time et Juillet, c'est des chocs, c'est vraiment des gros chocs. Quoi.
Donc rappelons Mille et une films, donc producteur rennais et producteur des Lendemains.
À quel moment elle s'opère en fait la jonction, enfin la rencontre avec Gilles Padovani, en tout cas?
Alors donc moi j'ai donc des envies de documentaire, mais qui sont juste comme ça, voilà, waouh, j'aimerais bien tenter cette chose, mais j'ai pas de, voilà, j'ai pas de sujet, j'ai pas de j'ai rien. Et je il y avait un copain à moi, Pierre, voilà, on aimait le cinéma, on se parlait beaucoup et tout, et lui il m'avait dit qu'il avait un projet de documentaire sur des gens qui s'installent en Ariège et qui vivent comme ça en Ariège, cachés derrière les arbres. Et moi, j'étais là, waouh, génial et tout. Et je lui ai dit, mais est-ce que ce serait chouette en fait qu'on le fasse ensemble, parce que moi, j'ai envie de faire du doc, mais en même temps, ça me paraît, je vois pas du tout comment ça s'écrit. Ça me fout la trouille. Autant justement écrire des fictions, ça m'inquiète pas du tout. Puis j'adore ça, mais là, Et donc lui, il trouvait que c'était chouette qu'on fasse ça ensemble. Moi, je lui ai dit, bah peut-être ce serait bien qu'on aille voir Gilles Padovani, parce que justement, il est à Rennes, il produit des docs vachement intéressants, donc ce serait bien qu'on aille le voir. Donc on est allé rencontrer Gilles, qui lui était quand même très sceptique aussi sur l'idée de la co-réalisation. Et puis c'est vrai qu'on, voilà, c'était quand même super flou notre projet.
Est-ce que l'écriture du documentaire c'est différent?
Ah bah
aussi.
Ouais. Et puis moi j'y arrivais pas du tout. Alors donc on est parti avec Pierre, on est parti en repérage ensemble en Ariège. Et en fait quand on était là-bas, plus on était là-bas, plus on rencontrait des gens, plus ce projet branchait et moins il branchait Pierre, quoi. Donc là il y avait un peu un truc qui se passait. Hein. Qui était un peu compliqué. Donc là, je suis allée faire une résidence d'écriture à l'USAS. Et donc après, moi, j'ai revu Gilles Padovani plusieurs fois pour ça. Voilà, qui m'a dit cette phrase mémorable, parce que j'arrivais pas à écrire, vous voyez pas du tout où je voulais en venir. Et un jour, il m'a dit cette phrase magnifique, il m'a dit, on marchait dans le Tabor et tout, il m'a dit, tu sais quand même... Le vide intersidéral de la vie de ces gens là-bas, ajouté au vide intersidéral de ton projet, ça fait quand même beaucoup. Ok, cool. Donc maintenant, il me dit qu'il m'a jamais dit ça. Et moi, je sais qu'il me l'a dit, je suis rentrée chez moi et j'ai noté cette phrase parce qu'elle était quand même super dure. Et je me souviens qu'après, justement, vraiment, mais j'arrivais pas à écrire ce... Parce que là, c'est vraiment, on est que dans la question de l'intention et j'arrivais pas du tout. Et à un moment, en fait, j'ai tout fictionné, quoi. J'ai tout écrit en fiction. Et Gilles m'a dit, finalement, ouais, ok, ça y est, je comprends enfin ce que tu veux, ce que tu, de quoi tu veux parler. Donc voilà. Donc après.
Il n'y a pas eu une rencontre, parce que du coup, c'est derrière les arbres, c'est une nuit derrière les arbres, donc documentaire. Où là, pour le coup, c'est un portrait quand même d'un personnage qui a décidé de s'isoler. On retrouve d'ailleurs des thématiques, de toute façon, qu'on trouve dans tous tes films. C'est un auteur qu'on a avec nous, c'est génial. On peut faire des ponts entre les films et tout ça. Donc, quelqu'un qui, après, voilà, s'est posé des questions, justement, s'être engagé politiquement, a décidé de s'isoler en Ariège, dans sa petite cabane. Donc, il y a une rencontre avec ce personnage quand même. À un moment,
ah oui, oui, mais ça, c'est quand, justement, quand je suis repartie toute seule en repérage pendant la résidence d'écriture. Voilà, mon projet, c'était vraiment sur tous les gens qui habitaient sur ce versant. Donc, il y avait Denis, qui est devenu le personnage principal. Quand je l'ai rencontré, il vivait dans la grange avec sa femme et leurs deux enfants. Et puis, il y avait une grange au-dessus, où c'était aussi un couple avec des enfants. Puis, il y avait une grange au-dessus, où là, c'était deux mecs qui habitaient ensemble et qui, en plus, étaient ultra catho, dans un truc un peu bizarre.
Deux mecs ultra catho qui vivent ensemble dans les bois en Ariège.
Exactement, ça en perturbait plus d'un, justement, parce que moi, j'ai jamais compris si ça dérangeait les voisins, en fait, qu'ils soient ultra catho ou que ce soit deux mecs qui vivent ensemble, parce que, voilà, tout baba cool qu'ils sont, ils sont des fois totalement réac, mais grave.
Il y a une communauté, en tout cas, dans cet espace.
En fait, non, c'était ça qui m'intéressait, c'est que justement, une espèce de relent comme ça, des tripes des années 70, voilà, on va vivre avec rien, on va planter des légumes et youpi. Sauf qu'en même temps, voilà, c'est plus du tout les années 70 et que du coup, moi, j'étais vraiment. Ce qui m'intéressait, c'était que c'était du coup des maisons, des familles, c'était papa, maman et les enfants, que justement, quand t'avais deux mecs qui habitaient ensemble, c'était quand même un peu la panique au village, genre peut-être, ils sont homosexuels, oh, quelle horreur. Et voilà, et donc moi, je voulais un peu secouer toutes ces questions. Il y avait des gens qui habitaient encore plus haut, qui eux étaient vraiment très 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 radicaux, qui eux avaient 4 ou 5 enfants et qui descendaient quasiment jamais de la montagne. Enfin, ça allait très loin. Et normalement, il y avait tout ce monde-là dans mon projet. Sauf qu'en fait, ils ne voulaient pas participer au film, quoi. Et voilà. Et je sais que moi, je me disais, non, mais je suis sûre qu'il y a un film. Je m'entendais super bien avec Denis. Je me disais, ça va être chouette et tout. Mais je me souviens quand même de Gilles, qui voyait le truc. Voilà, comme ça. Et qui me dit, à un moment, il me dit ça, qui me dit, mais t'es sûr qu'il y a un film, là? Je dis, je sais pas, non, je suis quand même pas sûr de grand chose.
Parce que tout le monde est parti, là.
Mais je me dis, moi, voilà, j'ai envie d'y croire et j'ai envie de le tenter.
Bon, finalement, en tout cas, le film s'est fait. Avec France 3 Sud, d'ailleurs.
Mm-hmm. Finalement.
Et du coup, t'as réussi quand même à retrouver, du coup, malgré tout, c'est pour ça que je parlais de communauté, parce que malgré tout, moi, j'ai eu le sentiment, devant le film, il y a une communauté, même si, du coup, ce Denis est tout seul, et ça commence avec lui tout seul, d'ailleurs, on retrouve, de toute façon, voilà, les enfants, la femme qui revient, les voisins qui montent aussi, qui sont ravis.
Après, oui, mais moi, c'était une vraie... Voilà, après, justement, il fallait que je trouve des... Je voulais absolument, justement, trouver quand même, retrouver cette idée de communauté, même s'il était tout seul, quoi. Ça, c'était, c'était important. Le feu de camp, le machin, c'était, il fallait que ça y soit. Après, du coup, c'était des trucs provoqués, quoi, mais peu importe.
Moi, je pense qu'il y a un après. C'est d'ailleurs dans ce but que je poursuis cette recherche de connaissances. Je pense qu'à partir du moment où on est suffisamment ordonné, même quelque chose d'inéluctable comme la mort n'est pas forcément une fin. Elle est un aboutissement, elle est l'aboutissement évident de quelque chose. Après, je pense que, suivant notre ordonnancement interne, ou la force qu'on a acquis, peut-être qu'on peut conserver une certaine part de maîtrise sur l'au-delà, ou si ça n'en est pas une maîtrise, garder une certaine cohérence au-delà de cette transformation. Et maintenant, je ne sais pas, je m'avance sur quelque chose de complètement subjectif. Après, est-ce que c'est en conservant notre identité ou en nous diluant? Et puis là, maintenant, les certitudes, j'en ai pas.
Mais après, moi, ce qui m'intéressait aussi, et c'est pour ça que Denis était vraiment formidable, et je pense qu'avec les autres, j'aurais beaucoup plus ramé, c'est que Denis, en même temps, il n'est pas du tout dans une espèce d'apologie de ça, quoi. Enfin, il est tout le temps là, justement, pour dire que, bah, que c'est pas simple, que c'est pas...
C'est un choix personnel, en même temps. C'est
ouais, mais par exemple, très... moi, justement, je me souviens, j'étais là, ma grande question, c'était, ouais, mais est-ce que c'est subi ou c'est choisi? Et puis, en fait, enfin, voilà,
il y a un peu d'autres, justement.
Donc c'était con comme question.
C'est un truc qui revient beaucoup dans le film, justement, mais c'est pas une réponse évidente non plus, quoi.
Quelque part, je pense qu'on l'a subi, la marginalité. Parce que c'est quand même une épreuve. Peut-être que des gens peuvent s'y sentir à l'aise, mais en fait, quand on s'aperçoit qu'on est très différent de notre environnement ou des autres humains qui nous entourent, oui, ça peut être aussi être vécu comme une épreuve. Même si soi-même, on a fait le choix de se situer à la marge. Quelque part, il y a des pressions sociales qui nous amène à ça.
Viens me dire encore qu'un grand amour nous attend. Viens me serrer fort, me rassurer.
Important dans ma vie, Marie Laforêt, dans mon film qui s'appelle Mathilde ou ce qui nous lie, je passe du Marie Laforêt j'adore sa voix. Je pense que c'est quelqu'un de très critiquable sur plein de points de vue, mais en même temps elle est formidable dans Les bureaux de Dieu de Claire Simon, et c'est déjà pas mal. Et puis quand même elle a fait des très belles chansons. Certaines totalement tartes, mais c'est pas grave.
Viens. Avril 50, qui est donc un film sur la bande dessinée Un homme est mort, adapté elle-même du film de René Vautier sur justement les manifestations à Brest en avril 50, où un homme s'est fait tuer par les forces de l'ordre. Et donc toi, ton film qui faisait partie d'une collection pour
Vivement Lundi. C'était le premier film d'une collection que Jean-François Lecor de Vivement Lundi avait envie de lancer.
Encore une fois à Rennes. Hein.
Ouais. Et qui voulait lancer une collection qui s'appelait L'Histoire par la bande, et justement c'était l'idée de faire une collection de films sur des bandes dessinées documentaires ou des bandes dessinées historiques, voilà. Et Bah ouais, moi j'étais flattée et surprise qu'on me propose un film. Mais après, je me suis dit, mais moi j'y connais quand même pas grand chose en BD. Enfin, j'en lisais un peu, mais alors c'était vraiment, vraiment. Enfin, et je me suis dit, waouh, ça me paraît pas tellement faisable. Et puis Jean-François Lecor m'a dit, écoute, va les rencontrer. Je pense que quand tu les auras rencontrés, ce sera un peu différent. Et effectivement, j'ai rencontré Chris d'un côté, Davoud d'un autre, parce qu'ils habitent pas du tout au même endroit. Et en fait, je me suis rendu compte que voilà, que les questions qui se posaient sur justement comment essayer de raconter une histoire, comment restituer des faits historiques, comment
participer, c'est la grande question. Justement, c'est représenter.
Bah oui, quelque chose, on n'y était pas et voilà. Et il y avait plein de questionnements qui étaient quand même justement un peu les mêmes que les miens sur le cinéma documentaire.
Peut-être rappeler l'histoire de leur BD en fait.
Donc la BD de Davodo et
Chris.
Elle raconte justement à la fois donc pour une mise en place les manifestations qui donc ont amené la mort de ce manifestant et la
donc c'est une énorme grève en fait
en 50
à Brest ouais.
Donc dans une ville qui est quand même dévastée à cause des Américains. Et donc René Vautier, lui cinéaste donc militant, est arrivé après cette mort là et a fait un film tout ça machin encadré par des gens, et donc la BD va revenir justement sur ce film en fait, sur la vie de ce film, un peu sur son tournage et puis sur les implications qu'il a eu aussi, la projection face justement aux manifestants et puis les résultats que ça a pu avoir.
Et puis sur ce film qui n'existe plus en fait.
Il a disparu le film parce qu'en fait il y avait qu'un positif en fait, donc finalement il a complètement disparu.
On voit pas René Vautier d'ailleurs dans le film en fait, il apparaît à aucun moment.
Il est très fâché d'ailleurs. Bon, déjà en fait, ce qui était quand même compliqué, c'est que il y avait le livre de René Vautier, c'était un chapitre du livre de René Vautier.
Oui, ses mémoires, c'est
c'est Caméra citoyenne en fait qui l'a écrit, où il parle un peu de tous ses films et tout, et c'est justement il raconte justement tout ce qui s'est passé avec Un homme est mort.
Ce qui est à la base de l'envie de Chris d'écrire le scénario, puisque Chris donc est au scénario, Davodo et au dessin, et c'est à la base de l'envie de Chris
de faire la bande dessinée. Et du coup il y avait ça, au départ c'est un chapitre d'un livre d'un cinéaste, après c'est justement des auteurs de BD qui font une BD à partir d'un texte et d'un film mais qui n'existe plus, voilà. Et moi on me propose de faire un film sur une BD d'un film et d'un livre, et voilà. Et il y avait un côté
truc de Christopher Nolan quoi.
Mais il y avait un côté vache qui rit quand même dans le truc, et c'était un peu moi je me disais justement comment faire avec tout ça. Après René Vautier, tout le monde connaît René Vautier, c'est un
donc
monument.
Il
a fait des films très importants, et puis lui c'est un mec très engagé, puis c'est un monument quoi, vraiment dans le. Il y a eu plusieurs documentaires qui ont été faits sur lui, et après c'est quelqu'un aussi qui justement parle énormément, puis il connaît énormément de choses. Enfin ça va très loin, c'est impressionnant. Et moi, je me suis dit, bon, en fait, là, en gros, il n'y a pas de la place pour tout le monde, quoi. Enfin, c'est-à-dire, je me suis dit que, déjà aussi, il y avait une différence entre Davodo, qui quand même était déjà quelqu'un d'assez connu dans la bande dessinée, qui avait fait Rural, qui commençait déjà à être reconnu et tout, et Chris, que beaucoup moins de gens connaissaient. Donc déjà, moi, je me disais, j'avais cette envie que ce soit équilibré entre les deux. Donc c'est vrai que je me suis dit, bon, avec un René Vautier par là-dessus, ça va être un peu compliqué. Et puis je me suis dit, en plus, ça sert à rien que finalement mon film re-raconte ce qu'il y a dans la BD. Moi je me suis dit, ce qui m'intéresse c'est vraiment eux deux, comment ils se sont réappropriés cette histoire, comment ils ont travaillé ensemble, comment on fait des choix de scénario, des choix de justement de dessin, comment voilà. Et du coup, voilà, maintenant, je regrette parce que je me dis que j'aurais pu faire une scène qui aurait été chouette. C'est, ça aurait été justement le moment où Chris et Davodo vont voir René Vautier pour lui dire voilà, ah ouais. Tu vois, c'est voilà. Donc ça, je m'en veux de pas avoir fait ça parce que voilà, parce que je pense que ça aurait été bien de le faire, mais bon. Mais bon, j'aurais pu faire cette scène. Voilà, ça aurait été le même film, mais en mieux, quoi. Donc, bon, bah voilà.
Mais c'est marrant parce que du coup, ça rentre un petit peu dans la thématique qu'on abordait avant et qui est présente dans Les Lendemains. C'est qu'est-ce qu'on va faire d'un héritage de quelque chose qui est un militantisme old school. Enfin, il faut trouver un mot plus judicieux, mais où René Vautier, c'est vraiment ça, une figure d'un militantisme où finalement on se dit, oui, c'est une figure. Héroïque et évidente, oui. Et voilà, sans trop de questionnement d'une époque donnée. Et toi, tu vas plutôt être centré sur un sujet où c'est qu'est-ce qu'on fait de cet héritage-là ? Est-ce qu'il est peut-être toujours valide ? Ou comment on réadapte cette chose-là ? Ou est-ce qu'elle avait une validité ?
Oui, mais moi, je crois que j'ai un problème avec les héros en général. Donc là, justement, c'est en plus, justement, quand moi j'étais à l'ESSAV, quand j'ai quitté l'ESSAV, et que j'ai dit bah je vais aller m'installer en Bretagne et tout, il y a plusieurs étudiants qui m'ont dit waouh, tu vas là où vit René Vautier, quoi. Enfin c'était quand même justement j'allais dans la terre d'un des maîtres et du coup moi je trouve que justement des fois, en fait, ça empêche la réflexion, quoi, parce que du coup, on est là en train de se dire, waouh, putain, mais il est formidable, putain, mais waouh, quelle vie magnifique, waouh, ces films, voilà, puis quel engagement, puis voilà, mais du coup, bah, du coup, évidemment, tout ça, c'est vrai, mais sauf que, on va pas avancer non plus à justement être tout le temps comme ça, une espèce de vénération des gens formidables. Parce qu'il faut justement, faut avancer, quoi.
Non, mais ça pose la question aussi sur le cinéma militant, qui est une grosse frange du cinéma documentaire, que j'imagine, de toute façon, tu as fréquenté dans la vision, dans tes visionnages et compagnie, et dans ta pratique, finalement, t'es là-dedans, et finalement, il y a un refus aussi de pas mal de choses du cinéma militant.
Non, mais moi, c'est vrai que là-dessus, moi, je me sens complètement proche de Davodo dans ce qu'il dit, quoi. Lui, il dit justement. Je m'intéresse à ça, quoi. Il dit, je m'intéresse à la militance, même. C'est marrant, il ne dit pas militantisme.
Oui.
Je ne me considère pas comme un auteur militant. Je me considère comme un auteur qui s'intéresse aux militants. Que ce soit dans Les Mauvais Gens, que ce soit dans Un homme est mort, que ce soit aussi, dans quelque sorte, dans Rural. Je m'intéresse à ces gens-là parce que c'est le milieu duquel je viens, c'est le milieu dans lequel j'ai grandi. Leur démarche, leurs préoccupations m'intéressent. J'en suis très proche. Mais j'ai aussi une espèce de distance qui m'empêche de me qualifier de militant. Un auteur militant investit totalement sa pratique dans cette militance, ce qui est loin d'être mon cas. Je consacre ma pratique à cette militance de quelqu'un d'autre, mais je ne l'investis pas totalement dedans. Il y a cette petite nuance qui est infime, qu'on ne voit pas souvent, mais à laquelle je tiens farouchement.
Après, il y a des films, enfin là, en même temps, j'ai pas vraiment d'exemple qui me... Il y a des films qui sont justement importants parce que justement ils ont pu dénoncer des choses, ils ont pu montrer des réalités et c'est super important. Mais en même temps, quand on dit cinéma militant, déjà ça me fait rire parce que quand on dit cinéma militant, ça sous-entend que c'est forcément militant de gauche alors qu'on n'en sait rien. Et que moi, je pense que de toute façon, ce qui est important quand même, c'est la dimension de cinéma. Enfin, c'est-à-dire que justement, qui est un auteur, qui est quelqu'un qui se pose des questions à la fois sur le monde, mais sur justement l'art qu'il essaie d'utiliser pour dire des choses. Et que c'est vrai que moi, quand tout d'un coup on me dit mais ce film est génial parce que voilà, il dit que les patrons c'est tous des méchants, je dis bon, si moi je trouve que c'est justement un vrai film dans le sens où voilà où il y a un vrai auteur, il y a des vrais choix, il y a des vrais, je me dis ben c'est super, mais par contre j'ai du mal avec le fait que ce serait super parce que ça dit voilà,
ça défend la cause,
parce que c'est un film de gauche.
Donc le cinéma, il est aussi là pour montrer la complexité des choses et après Bah ouais, c'est horrible si si les gens ils votent mal, mais mais je veux dire c'est pas, enfin moi c'est pas mon boulot justement. Je fais pas des films de propagande. Quoi, donc,
si y en a qui ont envie d'y aller à fond, après tout pourquoi pas. Par contre, c'est de l'imposer aux autres que là ça devient dogmatique. C'est comme quelqu'un qui à la limite aurait une religion, qui va à fond dans sa religion et qui exige que les autres aient le même comportement. Là, c'est quelque part, je crois que le mot fasciste viendrait très rapidement. Pourquoi empêcherait-on quelqu'un d'y aller à fond ? Par contre, à partir du moment où ça devient un dogme, là, il y a quelque chose qui ne va pas.
C'est un film le plus court, hein, je crois, Mauvaise Graine, qui parle donc d'un prof d'histoire, je crois, qui va retrouver son fils justement parmi des marginaux dans la rue qui boivent des bières avec des chiens et qui va le ramener chez lui avec deux de ses comparses et qui va s'en trouver alors qu'il pense vraiment que c'est pas. En tout cas, il laisse penser au spectateur que c'est pas quelque chose de très grave, que voilà, il est parti quelque temps, mais bon, il va revenir et qui finalement se retrouve. Dépassé par les événements suite au comportement un peu violent de son enfant. Et le film s'arrête justement sur finalement l'acte de trop en laissant le spectateur avec ce personnage de prof. Comment réagir face à ce genre de comportement, mais sans justement faire une leçon, sans faire une morale, sans prendre parti pour l'un ni pour l'autre, avec un personnage principal compréhensif qui cherche au départ en tout cas. À suivre.
Et puis dont on est censé comprendre que justement c'est quand même quelqu'un aussi qui d'ouvert, voilà qui était aussi certainement militant au début des années 70,
qui s'ouvre sur un cours sur le
sur Mao et qui voilà après dit mais moi aussi j'aimais bien foutre sur la gueule avec les flics quand j'avais voilà mais qui lui est dans un truc à dire mais
c'est quoi le sens de votre démarche en fait.
C'est quoi
et là on face à des gens un peu on est dans la fureur de vivre des gens qui sont en colère, qui sont à la marge, et qui cherchent pas à défendre une cause quelle qu'elle soit, en fait.
Après, ouais, là, ça, c'est la seule fois que j'ai fait ça. C'est une adaptation donc, d'une nouvelle de Jean-Bernard Pouy. Voilà, après, vraiment, moi, cette histoire, dès que je l'ai lue, ça m'a tout de suite plus intéressée. C'est la première fois que je lisais un truc en me disant « Waouh, j'ai envie d'en faire un film ». C'est vrai, moi, je fonctionne pas du tout. À chaque fois, on me dit, mais voilà, t'as des idées de plan, des envies de. Enfin, moi, j'ai aucune idée de plan. C'est pas du tout. Moi, c'est les personnages qui m'intéressent, c'est des intentions, des choses comme ça, mais je fonctionne pas du tout, justement, en découpage ou en. C'est plus des atmosphères et tout qui m'intéressent. Mais là, tout de suite, voilà, j'avais l'impression, justement, de super bien comprendre et le père et le fils, enfin, que c'était tout ça, c'était évident, c'était justement quelque chose qui me parlait, mais directement.
Qui ne sont pas dans une confrontation totale, justement. C'est-à-dire qu'on a des personnages, un personnage principal qui est intelligent, qui cherche à appuyer, qui cherche à comprendre son fils, qui est dans une époque différente, qui est dans des inquiétudes sans doute différentes. Mais
où ça marche pas. Mais c'est vrai que moi, ouais, c'est ça. En lisant, je me disais, mais moi, je comprends super bien le père, je comprends super bien le fils, je comprends super bien tout le monde, quoi. Et du coup, c'était. Ouais, ça m'a parlé. Alors, moi, j'avais déjà le projet des lendemains. En fait, c'était déjà en écriture et tout. Donc, c'est vrai qu'il y avait aussi...
Sur les lendemains, sur l'écriture.
Moi, j'ai commencé en 2004, quoi, donc à l'écrire. Donc, ça veut dire que là, quand j'ai fait Mauvaise Graine, qui est donc en 2010, voilà, le lendemain, c'était déjà un peu avancé. Hein. Donc, il y avait aussi des liens, parce que finalement, après, c'est pas du tout le même milieu et tout, mais c'est vrai que dans Mauvaise Graine, ça raconte plutôt, c'est plutôt du côté du père, et que dans les lendemains, c'est plutôt du côté de l'enfant qui n'est pas un fils mais une fille. Mais bon, c'est sûr qu'il y avait des liens entre les deux projets. Ouais. Et voilà, après, donc je me suis coltiné la question intéressante de l'adaptation. Moi, j'adore Jean-Bernard Pouy, et voilà, il y a un humour, il y a une espèce d'ironie dans Pouy que j'aime vraiment beaucoup, et qui était quand même très très compliqué à transcrire dans le film, quoi. Et du coup, je pense qu'à l'arrivée, justement, le film est beaucoup plus ouais, il est plus violent.
Il est assez dur. Ouais,
ouais, ouais, il est, mmh. il est, ouais, ouais, il est assez
c'est
dur
pas,
parce
c'est
que
pas glauque, mais il y a quand même une ambiance très noire.
Ouais, 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 ouais. Oui, parce que par exemple, c'est vraiment exactement la même chose, et puis à la fin, ça finit pareil, mais moi. J'avais pas du tout envie qu'il y ait une voix off qui vienne justement un peu raconter ses états d'âme et ses questions. Sauf que la nouvelle, elle est écrite à la première personne. Donc ça veut dire que là, il y a quand même aussi toutes ses pensées, toutes les questions qui se posent. Et là, moi, j'étais dans un truc à me dire, non mais moi, ça, je suis sûre que justement, avec juste le cinéma, des regards, la mise en scène et tout, je vais réussir. On va comprendre d'où il vient ce père. Parce que là, dans le texte, par exemple... Il raconte justement, voilà, quand lui-même il était avec les flics. Et là, moi, je me disais, non, mais je peux le faire passer sans un artifice de voix off et tout. Et je pense, ouais, ça marche. Mais par contre, justement, cette dimension ironique et tout ça, elle. Voilà,
l'humour,
disparaît un peu. Alors que là, par contre, à la fin, quand c'est pareil, quoi, il se retrouve comme un con. Son fils l'a agressé, ils sont partis avec tout, avec la bagnole, le fric, le machin. Il s'est retrouvé ligoté sur son canapé, enfin, donc c'est pas hyper poilant.
Sous la gorge.
Voilà. Alors, ce qui est marrant, quand même, ça, c'est que, dans la nouvelle, c'est un cutter, quoi. Et ça, c'est... Enfin, bon, moi, je trouve ça super intéressant, parce que, justement, quand moi, j'ai commencé à bosser sur l'adaptation, je me disais, non, mais un cutter, mais... Parce que là, tout d'un coup, ça devient un objet, quoi. C'est plus un truc, c'est plus un mot écrit, quoi. C'est vraiment... C'est un accessoire, quoi. Et moi, je me disais, non, mais il peut pas lui mettre un... Enfin, moi, je trouvais ça encore pire. Et moi, je me souviens de la prise de tête sur le tournage avec, justement, le mec de la déco. Il fallait choisir le couteau. Moi, j'avais super peur. Donc, à un moment, c'est tout juste... Je n'ai pas choisi un couteau à beurre parce que je voulais que ce soit tout rond et tout gentil. Et je me disais, mais non, en même temps, ça va être ridicule. Et justement, choisir l'accessoire pour que ce soit suffisamment violent pour qu'on... Voilà, que c'est pas rien, mais en même temps, pour que ce soit pas complètement affreux. Enfin, ça, c'était un dilemme, mais super compliqué. Et donc, à la fin, donc, c'est vraiment exactement la même chose, sauf que, voilà, juste, il dit, et maintenant, je suis comme un con. Enfin, je me souviens plus exactement, mais voilà. En gros, il dit, je suis comme un con et en fait, j'ai plus qu'à appeler les flics. J'ai vraiment avoir l'air d'un gros débile de dire je me suis agressée par mon propre fils. Et c'est pas drôle, mais c'est. Voilà, il y a,
Dans le film, du coup, il n'y a plus l'humour vraiment. Voilà. Par contre, cette sensation-là, on la ressent quand même. Quoi.
Oui, le côté je suis comme un con. Bah,
il est tout ça dans son appart. Bah, son fils est barré.
Oui, mais il n'y a plus l'humour. Donc c'est un peu. Et moi, à un moment, justement, j'ai flippé un peu au montage. Je me suis même dit peut-être je pourrais juste mettre cette phrase. Sur un fond noir pour puis au bout d'un moment je me suis dit ça va être nul c'est marrant parce qu'en même temps tous les faits sont plus violents donc c'est un cutter alors c'est pour moi ce qui est un truc vraiment affreux c'est lui qui les fout dehors alors que dans mon film justement moi je c'est eux qui c'est eux qui se barrent ils reviennent et là c'est vraiment lui qui les fout dehors enfin il y a plein de trucs qui moi me paraissait vraiment beaucoup plus violent mais qui en même temps là juste le fait d'être passé au cinéma et qui ce soit pas l'écrit et que ce soit pas Pouy mais moi enfin ça fait que voilà il y a finalement c'est beaucoup plus noir que ce que je voulais en fait.
Alors c'est quoi l'idée? Et se taper du flic tous les soirs, c'est ça? Ouais, moi aussi, j'aime bien ça. Le moment où on sent que ça monte, on est sûr d'être les plus forts. On sait bien qu'on risque de se retrouver dans la bétaillère, mais bon.
Si tu nous as fait à bouffer pour nous servir le vieux serment d'ancien combattant, on va s'arracher direct.
Je suis pas un ancien combattant. Eh ben, ce qui est sûr, c'est que vous menez une lutte sociale sans précédent.
C'est toi, tu me saoules avec tes leçons.
Ah ben, je donne pas de leçons. Je veux juste savoir pourquoi vous faites ça, en quoi vous croyez. Je suis d'accord, c'est la merde. C'est la merde. Mais c'est sûrement pas en regardant le monde par le trou du cul de sa canette qu'on va faire quelque chose.
T'as raison, c'est en lisant des livres peut-être.
Y'a pas que des conneries dans les livres.
Y'a pas que des conneries dans les livres.
Plus on apprend, plus on ne sait rien, c'est ça?
Vous venez d'écouter notre entretien avec Bénédicte Pagnot, réalisatrice des Lendemains, sortie le 17 avril 2013 en France. Un entretien réalisé en compagnie de Vincent Cadoret. Merci à lui. Vous pouvez écouter la totalité de cet entretien puisque la deuxième partie sera donc diffusée samedi prochain, donc à 15h, mais d'ores et déjà disponible sur le net, sur notre espace blog, sur le site de Canal B, dans son intégralité. Merci de votre écoute. Rappelez que vous pouvez également nous envoyer un mail pour gagner des places pour le Cinéville Colombier sur notre adresse mail le cinéma est mort attaché sans accent à yahoo.fr. Merci de votre écoute.
À bientôt.
Moi, je crois que c'est des trucs qui m'intéressent, d'interroger la marge, d'interroger l'utopie, d'interroger tout ça. Mais moi, ça m'intéresse toujours de partir un peu de la dimension justement fantasmée, mythique, et en même temps de confronter ça à une à une réalité qui est voilà, tout de suite, c'est beaucoup plus compliqué.